I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube ou sur mon podcast, je ne sais pas, parce que oui, vous voyez, je parle dans ce micro sur la chaîne YouTube afin de pouvoir également avoir un son à peu près nickel sur mon podcast, parce que oui, je vais diffuser cette FAQ sur l'intégralité de mes réseaux, aussi bien sur YouTube que sur mes podcasts. Et si vous êtes sur YouTube et que vous ne connaissez pas mes podcasts, je vous invite à découvrir mes podcasts. Mes podcasts où je parle de paternité, de masculinité, de succès et d'argent et également de maternité, je tiens à le dire désormais, avec Histoire de Daronne. Vous pouvez retrouver les liens dans les notes de cet épisode et vice versa, le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes en podcast, vous pourrez découvrir mon travail sur ma chaîne YouTube dans les notes de cet épisode. Voilà, je suis schizophrène parce que je suis à la fois podcasteur et YouTuber, mais on va faire en sorte de répondre à toutes ces questions, en tout cas à toutes les questions vous m'avez posé, vous en avez posé plein. Et on y va tout de suite, c'est parti, générique, ma gueule, coup de boule.
Pouh. Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Il y a Yao qui me pose sur le Discord et qui me demande, as-tu encore la niaque pour tous tes podcasts ou avec tes derniers, comme par exemple Histoire d'argent ou Histoire de Daronne, tu vas mettre en pause ou ralentir la cadence sur certains ou pas du tout ? A priori, c'est pas prévu. Je n'ai même pas du tout prévu de m'arrêter. Je me permets juste aujourd'hui de faire des pauses là où avant, je m'interdisais totalement de rater un épisode. Parfois, ça m'arrive de temps en temps de rater un épisode dans Histoire de Mec. J'ai pu le faire un peu cette saison. Mais globalement, c'est pas du tout un truc qui est prévu de faire. Au contraire, je trouve que c'est trop cool et je voudrais même, si j'y arrive, si je trouve le temps, continuer à élargir le spectre des différents sujets dont je parle dans mes podcasts, dont je fais parler les gens. Voilà. Vous avez un peu l'idée ? Deuxième question. Globalement, est-ce que tu arrives toujours à trouver des intervenants ou des intervenantes ou tu galères ? Alors, ça dépend des épisodes et des podcasts, pardon. Globalement, sur Histoire de Daron, sur Histoire de Daronne, sur Histoire d'argent et sur Histoire de Mec, ça va plutôt bien. Après, sur Histoire de Succès, c'est parfois plus compliqué, en tout cas d'aller chercher des intervenants ou des intervenantes que j'aimerais avoir, notamment autour du cinéma. C'est un milieu pour lequel j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à avoir des longues interviews. Je pourrais avoir des interviews de 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Mais c'est pas du tout ça que je veux. Donc par exemple, cette année, j'ai pu avoir Jean-Paul Rouve pendant 30-35 minutes dans un junket, qui est en gros un endroit où on se retrouve, où les acteurs viennent, les acteurs, les actrices viennent pour répondre aux questions de la presse. Et ils ont 10 minutes, un quart d'heure en général. Et là, moi, j'ai réussi à tirer 30-35 minutes. Ce qui fait qu'on a un épisode un peu plus court de Jean-Paul Rouve, mais on a quand même Jean-Paul Rouve. Et c'est un truc que j'aimerais bien développer l'année prochaine pour essayer d'ouvrir un petit peu au cinéma. J'aimerais bien aussi utiliser Paris 2024 pour m'ouvrir au sport, parce que c'est pareil, c'est des circuits de relations presse que je n'ai pas. Si d'ailleurs vous êtes en train d'écouter cet épisode et que vous vous dites, ah bah moi j'aimerais bien parce que je m'occupe, je suis manager d'un sportif, d'une sportive ou d'un jeune acteur, d'une jeune actrice, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, ça sera avec grand plaisir que je l'écouterai, que je le lirai. Mais globalement sur le reste des podcasts, franchement j'ai aucun souci, j'ai même trop de demandes. Par exemple, je sais que sur Histoire d'argent, j'ai plus de 60 mails non lus que je garde sous le coude. D'ailleurs, désolé si je ne vous réponds pas. J'ai pas de réponse automatique sur mon mail et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais pour l'instant, c'est pas un truc qui m'est techniquement possible. J'aimerais bien avoir une réponse automatique où je vous dis tout simplement, bah, merci beaucoup pour ton mail. Mais en ce moment, je n'ai pas la possibilité de pouvoir te répondre aussi rapidement que ce que tu voudrais, j'imagine. Voilà, comment tu peux me relancer, etc. C'est pas un truc que je fais pour l'instant. Mais sachez que je lis tous les mails simplement après. Je fais très attention à, comment dire, à alterner et à choisir le casting le mieux possible et à, surtout dans l'ordre. Donc c'est très important pour moi, surtout au début des podcasts, donc comme dans Histoire d'argent. J'essayais très très vite d'avoir quelqu'un qui gagne un salaire à peu près normal parce qu'on pourrait très vite se dire ok, il y a que des gens qui vont gagner beaucoup d'argent et c'est un podcast entre riches, alors que c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est juste de se rendre compte que l'argent est un vrai sujet, peu importe la somme qu'on a sur son compte en banque. Alors, As-tu des retours d'interviewés sur des impacts qu'a eu le podcast sur leur vie ? Alors oui, globalement, j'ai très régulièrement des messages de personnes qui sont passées dans mon podcast en me disant que leur entourage l'a écouté, voire même que parfois, le propre fait d'en avoir parlé a débloqué des choses chez eux qui font qu'ils ont eu un tournant dans leur life. Et c'est trop cool. C'est très intéressant aussi de voir à quel point le podcast est parfois écouté par des gens qui finissent par reprendre contact avec certains de mes invités alors que ces gens-là avaient été perdus de vue depuis des années. Enfin bref, c'est très gratifiant pour moi de me rendre compte que à quel point ces moments-là qu'on passe ensemble dans ce canapé-là, que vous voyez pas, dont vous voyez juste un bout, permettent de pouvoir créer quelque chose dans la vie, de pouvoir avoir un impact dans la vie des gens qui viennent à mon micro. C'est hyper touchant. As-tu trouvé ton équilibre financier et épanouissement avec ton activité ? Alors, oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je prends cette voix un peu au perché. Mais globalement, ça a vraiment été mon objectif après avoir vendu Mademoiselle. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai créé en 2005 et que j'ai vendu en 2020. Et j'ai ensuite décidé de me lancer dans cette activité de créateur de contenu, on va dire, à plein temps, et surtout basé sur mes podcasts d'interview. Et l'un des trucs que je souhaitais, c'était vraiment de retrouver une forme de sérénité, parce que les dernières années chez Mademoiselle ont été assez compliquées pour moi, de retrouver une forme de sérénité et de retrouver une forme de légèreté, on va dire, dans mon rapport au travail et de retrouver du plaisir. Et franchement, je crois qu'il n'y a rien de plus, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de passer, comme je l'ai encore fait ce matin avec une personne avec qui on va sortir une super interview, rien ne me fait plus plaisir que de passer une heure ou deux avec les gens dans mon canapé, à échanger avec eux, à essayer d'aller triturer un petit peu dans leurs souvenirs, dans leurs récits, etc., pour essayer d'en tirer une compréhension, en fait, de leur parcours, de leur vie. Ça me remplit à chaque fois de joie, mais vraiment très, très fort. Donc ça, en termes d'épanouissement, aussi bien avec ce qui se passe avec ma petite équipe de freelance. Donc, il y a Antoine qui s'occupe du montage des podcasts, Dorothée s'occupe du montage des vidéos, et il y a Jenna qui travaille avec moi en alternance. J'ai vraiment trouvé une forme de sérénité et d'épanouissement par rapport à ça. En termes financiers, globalement, la boîte s'est plutôt bien portée l'année passée. Cette année, on va dire le premier semestre est un peu plus compliqué en termes de sponsors, etc. Mais j'ai bon espoir que ça s'ouvre sur la deuxième moitié de l'année. Et globalement, j'ai vraiment pas à me plaindre. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ma vie après avoir vendu cette boîte qui m'a tenu en haleine et qui m'a porté pendant 15 ans et qui m'a aussi foutu un peu la tête sous l'eau, ça se passe à merveille. Et je crois savoir que c'est pas forcément le cas pour tous les mecs et les meufs qui vendent leur boîte, où il y a parfois des longues, longues périodes de disette de projets, quoi. Moi, j'ai pas du tout ça. Je suis en train de me demander parfois si ce que je suis en train de faire là en termes de podcast n'est pas une sorte de préparation à un projet peut-être plus grand, peut-être qui me dépasse, je sais pas. Je laisse venir, ça viendra à moi. Et je sens qu'un jour ça va venir comme une évidence dans la gueule, ça va me rouler dessus. Et je vais me dire, oh mon Dieu, j'avais tout ça dans la tête depuis des années et il est maintenant temps de le faire. Et je vais me lever tous les matins et j'aurai envie de le faire. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc je m'attelle à mes podcasts et j'y tiens et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc après tout, c'est exactement ça qu'on veut à la fin, quoi. Ok. Il y a Yao qui demande, pourquoi prends-tu du plaisir à faire pleurer tes invités ? Alors je n'y prends pas de plaisir. Enfin, moi, les gens, ils viennent dans mon canapé, c'est pour me raconter les vrais trucs, quoi. Donc, parfois, les vrais trucs, ça fait pleurer. Mais c'est pas grave. Et moi, ça m'intéresse pas de rester en surface. Ça m'intéresse pas de rester juste dans une sorte de discours que tu pourrais donner aux gens qui ne sont pas forcément proches et tout. Moi, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet, dans les choses qui font vibrer, qui te font vibrer toi et qui vont peut-être aussi faire vibrer mes auditeurs et qui me font vibrer moi, parce que c'est important aussi que quelque part moi j'y retrouve mon compte entre guillemets. Donc tu peux pas quand t'es dans mon canapé et que je suis en train de t'interviewer, me balancer un truc qui pourrait me sembler important sans que je rebondisse dessus. Donc parfois il y a des larmes, voilà. Je pense notamment à Sandra, je crois pas que l'épisode sera sorti, mais Sandra qui est venue me raconter son histoire de daronne et qui a eu un accouchement assez compliqué et encore vif, même si son gamin a aujourd'hui 11 ans. Et elle me disait, eh ben dis donc, je croyais pas que j'allais venir pleurer. J'étais là, frère, tu me connais, app, en fait. Et c'était ok, c'était trop cool qu'elle pleure. Parce que moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'elle pleure. Donc on a fait plusieurs pauses, elle prenait le temps de boire un petit coup, etc. Enfin, c'est pas un souci. Non, j'y prends pas de plaisir, mais quand même, je dois dire que le fait que les gens me livrent leurs émotions comme ça me donne beaucoup de joie, voilà, et de bonheur. C'est pas un plaisir sadique, mais c'est juste, je me dis, c'est cool, ça veut dire que les gens sont suffisamment en confiance avec moi pour venir me livrer leurs émotions, alors que, en plus, généralement, la plupart du temps, 95% du temps, je connais pas la personne qui est en face de moi, quoi. Ou on se connaît très peu. On a échangé quelques mails, on s'est vu 5-10 minutes avant de commencer à enregistrer, et puis c'est parti, quoi. Donc c'est plutôt un beau cadeau qu'ils me font et qu'ils vous font également par la même occasion. Je tiens à dire que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes podcasts sur la chaîne qui s'appelle Les Podcasts de Fab Florent. Si jamais vous préférez écouter sur YouTube que en format audio, sur Spotify ou sur les autres plateformes de podcasts préférées. Vos autres plateformes de podcasts préférées, quoi. Comme ça, c'est dit. Alors, quel est le podcast qui marche le mieux en termes d'audience ? Aujourd'hui, c'est Histoire de Daron qui est aussi... Et ça tombe bien, le plus vieux, c'est aussi celui sur lequel il y a le plus d'épisodes à écouter. Il y a, je crois, plus de 120 épisodes. Donc forcément, quelqu'un qui rentre dans Histoire de Daron aujourd'hui a potentiellement 120 épisodes à écouter, ce qui fait que ça génère plus d'écoutes. Je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils rentrent dans un podcast, en tout cas, je sais pas si vous faites ça, vous, de votre côté, mais moi, c'est ça exactement comme ça que je fais. Quand on rentre dans un podcast, ces personnes-là ont tendance à tout bouffer depuis le début. Globalement, c'est comme ça que je fais, comme je le disais. Forcément, sur un épisode comme Histoire d'argent, où on doit en être aujourd'hui à l'épisode 15 ou 20, je sais plus exactement, ça donne moins d'épisodes à bouffer. Donc forcément, l'audience est pas la même. Mais globalement, on va dire que l'audience par rapport au nombre d'épisodes est bien meilleure sur Histoire d'argent que sur Histoire de Daron, par exemple. Parce que je sens qu'il y a un truc qui vibre sur ce podcast qui est très très fort, où les gens sont hyper intéressés par le sujet. Et une fois que tu commences à rentrer dedans, t'as de tout bouffer. Ça me fait poser la question et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai sorti 3 épisodes par mois depuis quelques semaines maintenant. Et je me demande même, vu le nombre de demandes que j'ai, si je vais pas passer à un épisode par semaine à partir de la rentrée, quoi. Donc voilà. Tout ça pour dire que, effectivement, aujourd'hui, Histoire de Daron est le podcast le plus écouté. Ensuite vient Histoire de succès. Ensuite vient Histoire d'argent. Ensuite vient Histoire de mec. Et Histoire de Daron qui est tout nouveau, là, et qui est en train de, lui aussi, de très très bien démarrer, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a Pistache451 qui me demande « Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu as vendu Mademoiselle, que tu aurais aimé savoir avant et qui a fait une réelle différence dans ta vie ?» Je crois que l'un des trucs que j'ai appris, c'est de réussir à prendre le temps. J'ai réussi, et je réussis encore aujourd'hui, à prendre le temps de ne rien faire pendant une après-midi complète. Parce qu'en fait, j'ai cette opportunité-là, j'ai cette possibilité-là, et c'est trop cool. Là où avant, j'aurais culpabilisé de ouf de partir du bureau et de faire autre chose. Là, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je peux décider de prendre mon ordinateur ou mon carnet et en fait d'aller me poser le cul dans un parc et de prendre le temps de juste réfléchir et de me dire « Ok, c'est quoi les trucs que j'ai envie de lancer ?» L'un des trucs que j'ai pas fait, par exemple, depuis le début de l'année, c'est de prendre des vacances. Donc, c'est un peu un souci. C'est que le fait que j'ai un rythme peut-être un peu plus cool certaines semaines font que je ne sens pas la pression et la fatigue me venir en pleine gueule. Et là, depuis quelques semaines, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est plutôt cool que je prenne des vacances qui vont arriver là pendant l'été. Il faut toujours que je fasse très gaffe à cet équilibre-là parce que je sais, venant de là où je viens, avec un vrai passé, on va dire, un peu toxique de rapport au travail, il faut que je fasse attention à ça et que j'y fasse assez gaffe, quoi. C'est un des trucs, c'est vraiment le rapport au temps et le rapport au travail. Aussi, l'autre truc que j'ai appris, c'est que t'es pas obligé de galérer pour gagner ta vie. Et je crois que j'avais un rapport à Mademoiselle, alors certes qui était fait de beaucoup de plaisir, parce que ça a été énormément de plaisir de monter cette boîte, de créer cette boîte, de créer la culture de cette boîte telle qu'elle a pu exister à l'époque, etc. Mais j'avais aussi un peu ce truc en fond, en trame de fond, qui était « no pain, no gain », c'est-à-dire en gros, tu peux pas réussir si t'es pas en train de souffrir. Et vraiment, ce fameux « je suis pas venu ici pour souffrir », c'est vraiment un truc que j'ai appris là ces dernières années, mais que j'ai mis du temps et que je continue à mettre du temps à intégrer, parce que c'est vraiment ancré en moi. Il faut que je me le rappelle très régulièrement, que je suis pas obligé de souffrir pour réussir, quoi. Et c'est un vrai truc, ça c'est un vrai vrai chemin. Surtout, je viens d'une famille où globalement, la culture c'est ça, quoi. C'est il faut souffrir. Je viens d'une famille qui vient du Nord où mes grands-parents étaient ouvriers, enfin c'était vraiment dur et il fallait que ce soit dur. Si c'était pas dur, en fait, forcément, il y avait un peu un truc de culpabilité de réussir à gagner son pain, quoi, gagner sa croûte. Et ça, ouais, ça a été un gros gros truc que j'ai appris ces dernières années et que j'aurais aimé savoir à l'époque de Mademoiselle. Quand j'y pense. As-tu des épisodes ou des numéros où l'alchimie n'est pas passée, où tu as enregistré des numéros que tu n'as jamais diffusés ? Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu quelques-uns où j'ai senti que, en gros, l'invité n'était pas en train de jouer le jeu, on va dire, où l'invité était un peu en train de rester sur ses gardes. Et en fait, si tu joues pas le jeu avec moi, que tu viens dans mon canapé et que t'es pas en train de répondre à mes questions ou d'y répondre franchement, au bout d'un moment, moi, j'avais interrompu l'interview en disant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on en parle parce que je te sens un petit peu sur la défensive et tout. Et le gars m'avait dit, non, c'est pas ça. Ok, très bien. Et en fait, pas du tout. Donc au final, j'ai fini par ne jamais le diffuser. Et cette personne ne m'a d'ailleurs jamais...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Rappeler non plus, quoi. Donc, peut-être que il ou elle avait compris. Yao toujours qui demande pourquoi cette propension à aller majoritairement vers des humoristes. C'est pour une raison assez simple, c'est que ces derniers mois, j'ai eu beaucoup d'attachés de presse qui me proposaient des humoristes et des attachés de presse avec qui ça se passait très bien, qui me faisaient confiance et qui m'ont proposé leurs humoristes. C'est vrai que je me rends compte en fait, si on regarde les 6 derniers mois, qu'il y a plein d'humoristes dans Histoire de Succès. Et là, j'ai encore demain, j'enregistre un épisode d'Histoire de Daron avec Sébastien Marx. Là, pour le coup, c'est autre chose, c'est plutôt... J'ai envie de faire la suite d'un épisode d'Histoire de Daron qu'on avait fait avec Sébastien Marx au tout début du podcast. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'humoristes ces derniers mois. J'essaie d'y faire attention, mais encore une fois, si vous revenez à la question de tout à l'heure, c'est aussi une difficulté que j'ai en ce moment, moi, à aller chercher, à aller élargir un petit peu. J'ai une vraie question par rapport au profil d'entrepreneur, au profil d'entrepreneuse, où je me pose vraiment la question de lancer un podcast en rapport uniquement avec les histoires d'entreprise. Mais pour l'instant, j'y suis pas encore, donc je suis un peu le cul entre deux chaises par rapport à ça. Et je vous avoue que c'est des questions que je me pose, vers où je vais chercher Histoire de Succès, vers où je vais le mettre. Et quoi qu'il arrive, en fait, j'ai envie d'avoir toujours de toute façon des moments avec mes invités qui sont cool. Et l'un des trucs aussi, c'est que j'ai la sensation que les interviews que j'ai pu faire avec les humoristes étaient vraiment à chaque fois d'une extrême qualité. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Surtout que j'ai généralement plein de trucs à leur demander, quoi. Je pense notamment à l'interview avec Shirley Soignon, que si vous avez pas écouté, je vous invite à l'écouter, avec Kairon aussi, ou encore avec Thomas VDB. Et effectivement, à chaque fois, c'est des humoristes, mais c'est à chaque fois des angles très différents et des histoires très différentes. Donc au final, ça finit par marcher. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer d'ouvrir un petit peu. C'est un peu mon objectif, on va dire, de la fin d'année et de l'année prochaine scolaire, si vous voulez. Gardes-tu contact, me demande le slip vert, avec beaucoup de tes invités après leurs interviews, comme Anne-Laure de On the Verge qui parle de ça dans l'histoire de mec. Je t'avoue que non, et c'est parfois un vrai regret que j'ai de ne pas réussir à garder un lien avec mes invités. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à faire ça, c'est que je suis pas bon du tout en email, et que garder, on va dire, une discussion ou un lien par email, c'est très compliqué pour moi. Et en revanche, les quelques-uns avec qui j'ai leur téléphone, on s'envoie des petits messages très régulièrement, ou alors ils m'envoient des messages et moi je leur réponds. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un truc que je fais, mais c'est un truc que j'aimerais faire. Il faut juste que je trouve le bon format. En tout cas, si vous êtes en train de regarder ça et que vous êtes passé dans mon podcast d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'adorerais garder contact avec vous d'une manière ou d'une autre. Voilà. Y a-t-il d'autres sujets que tu aimerais explorer en podcast ou sous une autre forme ? Il y en a plein, il y en a 1000. J'adorerais explorer la mort, j'adorerais explorer l'amour. J'adorerais explorer le couple, j'adorerais explorer tous les trucs en fait qui font que aujourd'hui la parole n'est pas forcément libérée, sur lesquels la parole n'est pas libérée, et de la même façon que je sens que avec Histoire de Daronne, je suis en train de peut-être aller chercher des sujets qui sont pas forcément très explorés ou qui sont pas vraiment questionnés dans les podcasts autour de la maternité généraliste, on va dire. J'ai reçu par exemple énormément de messages suite à l'épisode avec Claudette, avec qui on discute de son envie de faire des enfants ou pas de faire des enfants. À 35 ans, elle se pose des questions, etc. Apparemment, c'est un épisode qui a résonné chez beaucoup de jeunes femmes qui ont à peu près cet âge-là, 35, 30, 35 ans. Et je sens qu'il y a tellement de sujets. Je sais pas à quel point j'aimerais bien tout mettre sous une sorte de podcast un peu large où je pourrais aller. Bon, bref, c'est un sujet sur lequel je me pose vraiment la question. L'autre question que ça pose, c'est comment tu fais pour monétiser ça? Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, je n'arrive pas aujourd'hui à pouvoir monétiser suffisamment bien l'intégralité de mes podcasts pour me dire, bon, bah, ok, tu vas lancer un nouveau podcast à côté qui va être un peu du fun, quoi. Même si c'est toujours un objectif que j'ai, mais j'en ai déjà parlé sur Instagram, je crois. Pas forcément en podcast. Mais j'en profite pour vous le dire. Si vous êtes à la tête de la communication d'une marque, d'une agence de pub, etc., et que vous cherchez des sponsors et que ça vous intéresse de venir soutenir un podcasteur indépendant, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous mets le lien pour venir me contacter directement ou le contact directement dans les notes de l'épisode / dans la description de la vidéo. C'est aujourd'hui une vraie prise de tête pour moi d'aller chercher une sorte de roulement qui soit un peu plus serein en termes de sponsoring et de publicité et de rentrée d'argent, quoi, tout simplement à la fin, qui me permettrait de pouvoir me donner à la fois une possibilité de pouvoir continuer à faire les podcasts tels que je les fais, mais aussi de pouvoir aller explorer d'autres choses. Pour l'instant, c'est un truc qui est encore compliqué pour moi. Donc voilà, j'en profite pour jeter une bouteille à la mer. Si jamais c'est un truc, si jamais vous avez envie de venir tester le sponsoring, si jamais vous avez envie de soutenir un jeune podcasteur indépendant, n'est-ce pas, jeune, tout est relatif. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Je serais ravi de pouvoir vous renvoyer un mail et qu'on puisse peut-être monter une opération ensemble, quoi, avec différentes possibilités de la pub avant le podcast, comme vous pouvez en entendre sur les podcasts, mais aussi des épisodes sponsorisés, comme j'ai pu en faire, en fait, avec certaines marques tout au long de cette année et depuis les années précédentes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous écoutez sur YouTube mes podcasts, l'une des solution pour m'écouter et pour me rapporter le plus d'argent, c'est aussi de m'écouter directement en audio, parce que c'est sur l'audio que ça me rapporte le plus d'argent. Voilà, c'est comme ça, vous le savez, la publicité sur les podcasts audio est beaucoup plus rémunératrice pour moi que la publicité sur YouTube. YouTube, en revanche, me sert vraiment de moteur de recherche, on va dire, qui permet de pouvoir faire découvrir le podcast à plein de gens, notamment par le système de recommandation d'algorithmes sur YouTube. En revanche, ce qui me permet de pouvoir gagner mes dolls et mes sous, c'est vraiment encore aujourd'hui le format audio qui est beaucoup plus rémunérateur en termes de prix, quoi, tout simplement à l'impression. Et je crois que c'est important de le dire parce que les podcasteurs pour l'instant l'expriment pas assez, en tout cas ceux qui mettent à la fois leur format sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc., mais aussi sur YouTube. Vous m'avez également répondu sur Instagram, j'ai reçu plein de questions que je vais vous lire pas plus tard que tout de suite. Alors, il y a Cyborg qui dit juste merci pour ta dernière newsletter. Elle redonne espoir en l'amour, même si c'est encore un peu dur. Eh bien, écoute, avec grand plaisir, j'en profite pour caler ici que je vous envoie un mardi sur deux, à 11h, une newsletter dans laquelle je viens vous raconter un peu ma life, à la fois des coulisses de ma vie de podcasteur, d'entrepreneur, mais aussi des coulisses de ma life, tout simplement, de façon plus large, parce que il se passe plein de choses dans ma vie et je trouve ça cool. J'essaie de tirer des leçons et de vous les partager, des trucs que je peux vivre et qui parfois me ratatinent la gueule. Voilà, tout simplement. Alors Fab, quel est ton bilan sur cette année avec Jenna? C'était cool de bosser à deux et d'avancer ensemble. Alors oui, effectivement, non seulement c'était cool de bosser à deux, Jenna est encore avec moi jusqu'en septembre-octobre et j'ai trouvé quelqu'un qui va la remplacer d'ici l'année prochaine, qui s'appelle Samantha. Je te dis coucou Samantha d'ailleurs, il faut que je réponde à la mail. J'en profite pour le message personnel, n'importe quoi. C'était très cool d'avoir quelqu'un avec qui bosser, avec qui ping-ponger. Jusque là, j'étais vraiment tout seul après la vente de Mademoiselle et c'était pas forcément un truc qui était très simple à vivre pour moi au quotidien. Donc le fait d'avoir Jenna avec moi, c'était vraiment cool. Je réfléchis à élargir, on va dire, un peu plus le collectif. Ça me manque grandement aujourd'hui, le collectif. C'est vraiment un truc sur lequel j'aimerais mettre l'accent dans cette année. Je me laisse un peu le temps cet été d'y réfléchir, mais c'est vraiment l'une des choses qui me manque le plus de mon après-Mademoiselle. Voilà. Donc, on verra bien. Mais de toute façon, toujours avec une alternante. Et puis également avec Antoine et Dorothée, dont je vous parlais un peu plus tôt. Mais ouais, c'était vraiment très, très cool de bosser ensemble. Je ne porte plus de perruque, me demande Raph. Point d'interrogation, ça ne te tente plus. Non, je ne porte plus de perruque. Regardez, sous cette casquette, si vous êtes sur YouTube, se trouve un crâne parfaitement chauve. Non, je ne porte plus de perruque. Je vous invite à aller voir les deux vidéos qui sont en rapport avec mes histoires de cheveux que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode et dans la description de la vidéo. J'ai réussi à le dire en une fois. Je suis un petit génie. Mais vraiment, ce fut un ride. Je ne m'interdis pas d'y repasser, un de ces quatre. On verra. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Peut-être que si un jour l'opportunité vient, ça serait cool d'y repasser. Alors, comment peut-on vivre de ces podcasts? C'est une vraie grande question qui est pas simple, qui est même complexe, parce que j'ai un peu l'impression que pas mal de podcasteurs viennent expliquer comment faire pour vivre de ces podcasts. Il y a pas mal de formations aussi qui existent, etc. Faites attention au bullshit par rapport à ça. Moi, j'ai une chance dingue, c'est que j'ai pu profiter de Mademoiselle pour pouvoir lancer mes podcasts et de la notoriété que j'avais et que j'ai pu créer en l'espace de 15 ans, même si, à vrai dire, j'ai pas beaucoup bossé ma marque personnelle pendant ces 15 ans-là. En tout cas, par rapport à d'autres salariés qui sont passés par là et qui s'en sont, on va dire, gavés à merveille. Hein. C'est pas du tout un reproche hein, quand je dis ça, au contraire. J'étais très heureux qu'elle utilise Mademoiselle comme un tremplin, parce que c'était vraiment mon objectif aussi à moi. La question que je peux me poser aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai vraiment bien utilisé Mademoiselle comme mon tremplin personnel ? Pas tant, mais d'un autre côté, c'est sans doute aussi révélateur d'autres choses que j'ai pas réussi à me servir en premier, n'est-ce pas ? Voilà, je vous invite à aller écouter l'épisode d'Histoire d'argent qui sortira notamment, je crois, début juillet, où je parle de mon rapport à l'argent. C'est très lié, je crois. Mais aujourd'hui, j'arrive à vivre de mes podcasts, mais l'un des trucs et l'une des raisons pour lesquelles j'arrive à en vivre, c'est que auparavant, j'ai bossé pendant 15 ans avec sur Mademoiselle, à créer une audience, à créer une communauté, à créer aussi des abonnés sur ces podcasts, qui font que aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui me suivent depuis l'époque de Mademoiselle. C'est trop cool d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui me découvrent aussi juste par mes podcasts et qui connaissaient pas forcément Mademoiselle ou qui savaient pas que j'étais le fondateur de Mademoiselle. Donc ça, c'est tant mieux. Mais en attendant, j'ai aussi ce background-là et aussi cette connaissance du marché publicitaire que je n'avais pas, par exemple, pendant les 2-3 premières années de Mademoiselle, où j'ai découvert ça au fil de l'eau parce que j'étais pas du tout dans le sérail de la publicité, de la publicité digitale, etc. C'est des choses que j'ai appris avec le temps et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir surfer sur l'intégralité des choses que j'ai apprises pendant ces années, mais c'était pas forcément un truc très simple. Donc faites bien gaffe quand on vous dit que vous allez réussir à pouvoir vivre de votre podcast, etc., etc. C'est pas aussi simple que ça. Créer de l'audience sur son podcast, c'est compliqué. Sortir du lot aujourd'hui quand on a créé un podcast, c'est compliqué aussi. Et une fois que vous avez créé de l'audience, etc., réussir à le monétiser, c'est pas aussi un truc très simple. Je vous parlais tout à l'heure du fait que je galérais un petit peu, et notamment sur Histoire d'argent. J'étais à peu près convaincu que j'allais réussir à trouver un sponsor assez évident pour Histoire d'argent dans les premiers mois. Je n'ai pas réussi, c'est pas un échec, mais c'est juste pour l'instant, j'ai pas réussi à créer de l'envie autour d'un sponsor, à venir m'aider, à venir me soutenir autour de ce podcast qui, en plus, je trouve, est canonissime, et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est juste, je le trouve d'utilité publique, le truc. Voilà, les messages que je reçois sont complètement dingues, et si vous êtes en train d'écouter Histoire d'argent, si vous avez écouté, vous le savez, ça ouvre la tête de plein de gens, et c'était exactement le but que j'avais envie de poursuivre avec ce podcast. Ça me frustre un peu parfois que je n'arrive pas à y mettre de l'argent justement en face, mais tout ceci est également mon propre chemin par rapport à l'argent. Comme quoi, c'est bien fait. Où vois-tu ton activité professionnelle dans 5 ans ? Alors Mégane, merci beaucoup pour ce message. Écoute, je n'en sais rien. Je sais juste que aujourd'hui, je suis en train de faire un truc que je kiffe. L'un des trucs que je sais, c'est que il va falloir à un moment ou à un autre que je diversifie aussi mes activités, parce que c'est je sais à quel point il faut savoir tout faire dans ce métier, et que m'enfermer dans le podcast serait pas forcément la meilleure chose à faire. Je vais voir dans les semaines, les mois à venir, réfléchir à d'autres choses, et puis aussi dans les années à venir. Mais à vrai dire, j'ai pas vraiment de plan. Là où je crois que pendant très longtemps, ça a été un peu mon obsession avec Mademoiselle, de faire des plans à 5 ans, où tu veux être, etc. J'aime bien me dire aujourd'hui que je prends un peu le temps de voir venir. Voilà, ça ne fait même pas que 2 ans que Mademoiselle est vendue. J'y suis resté pendant 15 ans. Je peux être un peu sympa avec moi et prendre un peu le temps, quoi. Quand arrivent les podcasts sur l'argent dans le couple, me demande Narfni. Ça arrive normalement quand cette vidéo sera sortie, ou quasiment, il y aura un épisode d'Histoire d'argent sur le couple. Et d'ailleurs, merci à Cédric et Noëlla d'avoir joué le jeu. Vous m'en direz des nouvelles de cet épisode que je trouve super. Il y a Claire qui me demande « Es-tu heureux ?» Grave. Non seulement je suis heureux, mais en plus, je tiens à vous le dire, je suis amoureux. Voilà. Je vous en dis pas plus. Peut-être un jour, je vous en dirai plus. Vous verrez. Mais pour l'instant, j'ai trouvé une super fille avec qui c'est super. Voilà. Qui est canon. Je vous en dis pas plus, mais je suis tellement heureux de cette rencontre. Vraiment tellement heureux. Vous ne le voyez sans doute pas si vous écoutez ce podcast, mais je sens que j'ai une gueule de con dès que je parle de ça. Voilà. Donc je suis hyper content de cette rencontre. Je suis hyper content de tout ce qui peut se passer par rapport à ma vie professionnelle. Je suis frustré par certains points de cette vie pro dont je parlais un petit peu plus tôt, mais je sais que c'est work in progress. Mais globalement, sur tous les pans de ma vie, je suis plutôt assez heureux. 44-45 balais. 2 ans après avoir retourné l'intégralité de mon existence, je m'en sors pas trop mal. Est-ce que tu as un truc professionnel dont tu rêves mais que tu n'oses pas tenter? C'est marrant, mais je crois que j'ai de plus en plus ce truc de me dire « Dis donc, si t'écrivais un texte pour la scène ?» Voilà. Alors, comment on gagne sa vie avec des podcasts? Quel est le modèle économique? Demande Eustache. Alors, comment on gagne sa vie avec des podcasts? Grâce à la publicité pour l'instant, ou, et d'une manière générale, grâce à la pub, ou alors parce que vous allez aller produire des podcasts pour une marque en marque blanche. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, Coca-Cola décide de vouloir créer un podcast sur ce que ça fait que d'être léger. Voilà, j'en sais rien. Je pense aux bulles. Je me dis, un podcast sur la légèreté, voilà. Et d'ailleurs, Coca-Cola, n'hésitez pas à me faire signe si jamais vous voulez créer un podcast sur la légèreté, j'ai plein d'idées. Et ils vont venir voir un studio ou par exemple ma Bob ou une agence de publicité. En fait, l'agence de pub va venir me voir en me disant on voudrait créer un podcast de A à Z qui serait signé par Coca-Cola et à ce moment-là, bah, je peux m'occuper de le produire, de le créer, etc. Le podcast ne m'appartient pas. Moi, je fais juste que le créer, de le produire et derrière, c'est tout. Une fois qu'il est sorti, après, je m'en occupe plus. C'est pas du tout ça que je fais. Je n'ai pas envie de monter un studio de podcast. Une des joies que j'ai aujourd'hui, c'est de réussir à pouvoir créer et à pouvoir produire mes propres podcasts et à pouvoir les monétiser, les podcasts que je crée moi, et à pouvoir gagner ma vie avec en mettant de la pub en pré-roll en général et en mid-roll, c'est-à-dire au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous avez une autre publicité. Si vous écoutez sur YouTube, c'est pour ça que je vous disais venez écouter en audio parce que c'est ça qui me rapporte de l'argent. Généralement, c'est une publicité que je vends avec ma voix dessus, que j'écris, que je prends le temps d'écrire, etc. J'écris un petit script, c'est ma recommandation. C'est aussi ça que je vends, c'est ma recommandation d'influenceur, n'est-ce pas, MTR. Mais bon, en tout cas, c'est un vrai truc que je vends aujourd'hui. L'autre pan que je fais à côté des publicités pré-roll qui, elles, vont et viennent, en fait, et au bout de, on va dire, X semaines, X mois, en fait, la publicité s'en va et fait place à une autre publicité. L'un des trucs que je vends aussi, c'est ce qu'on appelle les épisodes sponsorisés. Par exemple, on en a fait avec PandaCraft cette année ou avec Petit Bateau, où on crée tout simplement ensemble un format que PandaCraft a envie d'avoir, par exemple, où je vais interviewer, et pour le coup, ça reste un vrai épisode comme ça pourrait être un épisode normal dans Histoire de Daron, par exemple, où j'interview le fondateur. Il me laisse la possibilité de pouvoir dire exactement ce que je veux dans l'interview. Et en passant, et en fait, on vient dire aussi que le podcast est sponsorisé par PandaCraft, ce qui fait que ça aide aussi à faire connaître la marque auprès de mes auditrices et de mes auditeurs. Voilà aujourd'hui comment on gagne de l'argent grâce au podcast. Et comme je le disais un peu plus tôt, il faut déjà arriver à une certaine audience. Je crois que c'est assez compliqué de monétiser son audience tant qu'on ne fait pas au moins 10, 20, 30 000 écoutes par mois, quoi. Donc ça nécessite déjà d'avoir taffé et d'avoir fait en sorte d'avoir ramené du monde sur son podcast. Pour information, moi, mes podcasts font entre, on va dire, 30 000 et 120 000 écoutes par mois en fonction des mois, en fonction de l'âge aussi, du temps d'existence de ces podcasts dont je vous parlais un peu plus tôt. Est-ce que c'est l'amour qui te rend BG? Me demande Clara. J'ai un glow. Elle me dit, tu as un glow de femme enceinte? Lol. Eh bien, écoutez, peut-être, je ne sais pas. Effectivement, je suis amoureux, je vous l'ai dit. Bref. Avec tous ces témoignages, penses-tu écrire un livre? A priori pas. C'est une question qui revient souvent parce que j'ai eu énormément d'éditeurs et d'éditrices qui sont venus me voir. Je ne sais pas si c'est un projet que je lancerai un jour. À vrai dire, moi, j'ai déjà lancé non pas un livre, mais 2 livres en 2007 et en 2009 qui s'appellent Futur Papa et Futur Papa 2, le retour de la revanche, où je raconte les grossesses, la grossesse et les grossesses de ma femme à l'époque, qui étaient sous forme de blog, qu'en fait l'éditeur a repris, que j'avais écrit au fil de l'eau, en fait, qui n'était pas du tout destiné à devenir un bouquin. À la base, c'était vraiment un blog dont je voulais offrir le contenu à ma femme, à la maternité. Et au final, ça a fini par devenir un truc viral sans même que je m'en rende bien compte. Si bien que j'ai fini par en faire un livre. Voilà. Mais on va dire que je n'ai plus aujourd'hui, grâce à ça, l'envie. D'ailleurs, j'y pense, mais ce bouquin est toujours disponible en poche chez Gélu. Parfois, je le vois, je traîne dans les Fnac et je vois rayon maternité. Il y a toujours un bouquin ou deux qui traînent. Donc, c'est très marrant qu'il existe encore. Est-ce que je suis en train de regarder parce que je sais pas si je l'ai là dans mon étagère, je crois pas. Mais bref, ce bouquin existe toujours et je n'ai plus, moi, cette envie, cette pulsion d'avoir un livre. C'est bon, j'ai déjà fait tout ça. Mon bouquin s'est très bien vendu. Il y a toute une histoire en rapport avec l'argent qui fait qu'en fait, je n'ai jamais touché complètement mes droits. La maison d'édition m'a arnaqué tout comme elle a arnaqué plein d'autres auteurs. Mais encore une fois, j'ai un peu la sensation que je me suis fait arnaquer parce que j'étais arnaquable. Mais ça, c'est encore une fois dans mon rapport à l'argent qui est très, très intéressant. Mais ouais, j'ai pas forcément cette envie première de pouvoir de lancer un bouquin. Si un jour j'écris un truc, je ne sais même pas si je le sortirai sous forme de bouquin. Voilà. Peut-être que je le sortirai sous forme d'e-book ou je ne sais pas quoi. Il y a Kairon qui me demande à qui vas-tu confier le ministère de la magie noire. Merci Kairon pour cette question. Effectivement, parce que je suis le sosie de Lord Voldemort. Voilà, comme ça vous le savez. Puis il faut le dire, et je le dis dans Histoire de succès, je crois, je le dis assez vite, c'est que Kairon a été le premier mec à me dire « Mais dis donc, tu ressembles à Lord Voldemort, t'es au courant ou pas ?» Ça m'a suivi pas mal de temps. Aujourd'hui, je crois que je suis plus BG que... Non, je suis plus BG ou pas ? Ça va. Voilà, arrives-tu à vivre de tes podcasts ? Une dernière question, beaucoup de questions sur arrives-tu à vivre de tes podcasts ? Mais c'est normal parce que c'est, je crois, un peu le jeu aussi, hein. Il y a une dernière question qui m'est posée par Néo Lambda. Est-ce que pour être un bon intervieweur, tu mets souvent ce que tu penses, ce que tu juges en sourdine, ou bien est-ce que tu t'autorises à être complètement toi-même ? Alors, c'est une question super intéressante parce que je crois que l'un des trucs que j'arrive plutôt à bien faire, c'est à être à la fois dans l'écoute et la bienveillance et assez peu de jugement finalement, mais que quand quelqu'un me dit un truc qui moi me heurte un peu ou me choque un peu, je vais chercher à creuser un petit peu. Tiens, mais au fait, pourquoi t'as pas fait comme ci? Tiens, mais au fait, pourquoi t'as pas fait comme ça? Ou parfois j'ai eu quelques mecs qui disaient, eh ben voilà, elle mettait pas de contraception et puis l'enfant est venu, quoi. Je disais, frère, quid de mettre un préservatif, quoi. Voilà, de reprendre en charge la contraception. Donc ça fait partie des questions que je peux poser et qui me permettent, je crois, de pouvoir être plutôt bien aligné entre finalement, en posant cette question-là, je suis aussi en train d'orienter la discussion, je suis aussi en train de montrer à l'auditrice et à l'auditeur que parfois je suis pas forcément d'accord avec ce que la personne est en train de dire. Mais je trouve en plus que ça permet de pouvoir essayer de creuser un petit peu ce que la personne a juste derrière juste un mot ou une phrase. Et peut-être que d'amener un peu de nuance aujourd'hui dans le débat, dans les discours, etc., ça permet de pouvoir avoir une société un peu plus apaisée parce que c'est peut-être ça dont on manque aujourd'hui, de nuance. De possibilité de comprendre ce qui se passe derrière les petites phrases qu'on vient récupérer juste sur TikTok ou sur Twitter, qu'on vient extraire d'une interview où la personne vient raconter tout ça et puis d'un seul, il y a juste une phrase, juste un petit mot sur lequel on phase totalement alors qu'en fait la personne avait une pensée et une réflexion beaucoup plus longue derrière et beaucoup plus complexe. C'est ce que j'essaie de faire avec le podcast, avec mes podcasts en tout cas. Voilà, j'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées. Je vous remercie beaucoup de me les avoir posées tout simplement. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est mon canal d'envoi préféré parce que c'est l'un des canaux aujourd'hui où je ne suis pas tributaire, moi, en tant que créateur de contenu, d'un algorithme, d'une envie de Mark Zuckerberg, d'un coup d'un seul, de ne plus mettre en avant des photos, mais de ne plus mettre que des vidéos. Et en fait, ça me saoule. J'ai pas envie de m'adapter à ce que les plateformes font. Moi, j'ai juste envie de vous envoyer des trucs. Et donc, l'email, l'air de rien, vieux comme le monde, reste encore la meilleure façon de pouvoir garder contact avec moi et sans que vous perdiez d'une manière ou d'une autre parce que l'algorithme a décidé que d'un coup d'un seul, moi j'étais plus sympa, vous ne me voyez plus. Voilà. Tout comme parfois, je ne vois plus des amis à moi sur les réseaux sociaux pendant des plombes. Je dis, hein, qu'est-ce qui devient en fait? Et puis, en tapant, je me rends compte qu'en fait, j'ai raté plein de trucs parce que, pour une raison ou pour une autre, l'algorithme a décidé de le flinguer. Et je trouve que c'est fort dommage. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. C'est encore le meilleur moyen de garder le contact avec moi. Mettez la cloche sur YouTube, ça permet de pouvoir avoir les petites notifs. Par rapport à YouTube justement, ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de vidéo pour une raison assez simple, c'est que je suis un peu à sec. J'ai notamment une super vidéo que je voudrais sortir sur ma quête de l'amour, mais sur lequel je bloque un peu et je me laisse le temps de bloquer. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir faire ce petit format, un peu chit-chat avec vous qui est un peu moins intense que d'habitude et un peu moins écrit. Je crois que j'ai aussi peut-être besoin de revenir à un truc peut-être un peu moins écrit, un peu moins intense, après avoir fait 6 mois de vidéos où, bah, pour le coup, j'ai vraiment appris plein de choses. Mais je me rends compte à quel point, avec les podcasts à côté, c'est quand même pas mal de taf, quoi. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bel été. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez continuer à pouvoir entendre mes podcasts sur dans votre plateforme de podcast préférée, parce que je ne vais pas m'arrêter, tout simplement. J'ai pas mal de podcasts d'avance. Et même si je vais prendre des vacances, il y aura Jenna derrière pour envoyer les trucs. Donc, je vous fais des poutous et je vous dis à bientôt. Salut.